s'est levé à mon approche. Debout, il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche. Ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rablé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, John, John, Johnny, envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal, John, John, Johnny, moi j'aime l'amour et qui fait boum. Il va me faire mal, il va me faire mal, il va me faire mal, il va me faire mal. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un air bête, il comprenait rien le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Mais fais-moi mal, John, John, Johnny, je suis pas une mouche. Fais-moi mal, John, John, Johnny, moi j'aime l'amour et qui va boum. Va-t-il me faire mal? Va-t-il me faire mal? Enfin, va-t-il me faire mal? Va-t-il me faire mal? Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça a réveillé au sissac et il m'a dit arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'enfiler de la série noire. Ah, tu fais mal, John, John, Johnny, pas avec les pieds. Si, tu fais mal, John, John, Johnny, moi j'aime pas l'amour qui fait bing.
Il me fait mal, oui, il me fait mal, il m'a fait mal, alors là il m'a fait mal.
Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en me laissant une épaule démise. Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne crierai. Fais-moi mal, John, John, Johnny, envoie-moi au ciel. Fais-moi mal, John, John, Johnny, j'aime bien l'amour et qui fait.
Johnny, la vache, oh, j'en ai marre alors.
Villefranche, 92.
Genre égal, une mémoire. Dixième. Une émission présentée par Joël Cosse avec la participation de Roger Lajoie-Mazin. Bonjour Jean Rigal. Donc, nous avons parlé jusque... Bonjour Roger Lajoie-Mazin.
Bonjour.
Nous avons parlé dans l'émission précédente donc, de l'activité du maire et de l'activité du député dans ces années 83-89. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est dans cette période-là, il y avait pratiquement une élection chaque année. Il y a eu une élection municipale en 83, il y avait les présidentielles en 84.
Non, 80...
Municipales en 83, 84 les européennes,
ouais, ouais.
85 les cantonales, ouais. Et les régionales.
Ouais. Non, oui, oui.
86 les législatives.
Et les régionales.
Et les régionales, c'est en 86 les régionales.
Oui.
87, il n'y avait rien, donc on en avait pris deux l'année précédente. Et en 88, on retrouve les présidentielles et les législatives en suivant. Donc, une élection pratiquement par an, parfois deux dans l'année. Donc, la préparation des élections était importante. Et donc, peut-être dans les appareils, en tout cas dans les réunions que vous faisiez entre élus ou entre responsables politiques. Donc, on va peut-être commencer par les cantonales de 85.
Il y a pas oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Ben, au cantonal de 1985, j'étais sortant. De sorte que le Parti socialiste n'a pas décidé de ne pas présenter de candidat et de me soutenir dès le premier tour.
C'était le seul canton éligible où il n'y avait pas de candidat socialiste. C'est le seul, oui.
Oui, peut-être, oui. Enfin, j'étais sortant. Donc j'ai dû affronter la droite, d'ailleurs, sous deux formes. Hein, ce que le politologue René Raymond appelait la droite légitimiste, orléaniste et bonapartiste. Hein. Alors, les bonapartistes, c'était le REPR, c'était Claude Gamel. Et la droite légitimiste et orléaniste, parce que sur Villefranche, il n'y avait pas une grande différence entre les deux, c'était Vincent Jaillir.
Voilà. Il y avait aussi un candidat du Parti
communiste. Il y avait également un candidat du Parti communiste, Christian Roussel. Et en définitive, j'ai été élu au premier tour, hein, cette fois-là. Voilà. Donc, une élection pas très très mouvementée, et ça m'a permis de retourner au conseil général, où, avec la mise en place de la décentralisation et l'extension, par conséquent, des pouvoirs du président du conseil général, il est certain que la mégalomanie de Jean Puech a trouvé un terrain favorable pour se développer, terrain qui n'existait pas jusque-là, puisque jusque-là, les présidents de conseils généraux se bornaient à présider l'Assemblée délibérante, mais ne détenaient pas le pouvoir exécutif, lequel était détenu par le préfet. C'est ce qui a complètement changé les choses pour le département. Alors que dans les communes, même avant la décentralisation, le maire détenait l'exécutif. Et donc, je pense qu'on verra par la suite tout ce que ça a pu amener.
Jean Puech était président du conseil général depuis quand?
Depuis 1976. Il avait été élu en 70, à l'âge de 28 ans. Et c'est dans le canton de Rignac, et 6 ans plus tard, donc en 76, il avait été désigné comme président à l'intérieur de l'Assemblée départementale. Quant à moi, j'avais été élu pour la première fois en 79.
Voilà, donc Roger Lajoie-Mazin, vous vouliez poser une question par rapport au Conseil Général.
Je pense que Jean m'a devancé un petit peu, c'était une question d'ambiance, un petit peu comment ça se passait au Conseil Général, à partir de 86, comme il vient de le dire, et les lois de centralisation, évidemment, qui transforment un petit peu les données. Donc cette ambiance qui va perdurer jusqu'au retrait de Jean Puech.
Oui, effectivement, c'est en 86 que les lois de décentralisation, votées à partir donc de 1982 avec la loi mère, la loi du 2 mars 1982, vont entrer en vigueur. Ensuite, il y a eu les lois concernant tous les services, les transports, les affaires sociales, etc., etc., qui sont venues en cascade les unes derrière les autres. Et c'est à partir donc des renouvellements de 86, à partir de 1986, qu'elles sont totalement opérationnelles. Et c'est là que les présidents de conseil général vont avoir à la fois la présidence de l'Assemblée délibérante, comme ils l'avaient, et en plus la détention du pouvoir exécutif, la préparation des dossiers, l'exécution des décisions de l'Assemblée, etc., etc., etc.
D'où la difficulté d'intervenir. Là, vous avez peut-être pas eu beaucoup de marge de manœuvre.
Bah, évidemment, on ne pouvait pas faire exactement, on ne pouvait pas intervenir autant qu'on le voulait, mais enfin, tout de même, on arrivait à s'exprimer.
Voilà, donc on va faire une première pause.
vérité. Quel dommage. Et le mensonge, ce n'est pas beau. Est-ce mentir l'avenir ou la sincérité qu'il faut? Et à dire vrai, est-ce bien pire si la vérité fait défaut? Vraiment, je me le demande. Tant de questions dans le cerveau résonnent et sans cesse me questionnent. Il y a le mensonge au salon et la vérité qui sonne. Et à dire vrai, est-ce bien pire si la vérité fait défaut? Vraiment, je me le demande. Faut-il faire la lumière? Faut-il faire le numéro? Comment diable y voir clair? Sortir les lapins du chapeau.
Carl et Amestoy Trio. Donc on reste dans les élections, puisqu'il y a eu pas mal de réformes, y compris pour les régionales, qui vont se dérouler d'une façon différente aussi, en 86 là donc.
Oui, alors, effectivement, pour les régionales, elles se dérouleront d'une manière tout à fait nouvelle, c'est-à-dire qu'en fait, les élections, il y aura des élections pour la première fois. Puisque jusque-là, les conseillers régionaux, membres de ce qu'on appelait l'EPR, plutôt que le conseil régional, établissement public régional, étaient des gens désignés en fonction des mandats qu'ils occupaient par ailleurs. Hein, députés, sénateurs, maires de grandes villes, délégués des conseils généraux, délégués des associations de maires, etc. etc. Je ne reviens pas là-dessus. Donc, avec la mise en œuvre de la décentralisation, pour les régionales, élections. Hein. Et élections à la proportionnelle intégrale, département par département, dans l'Aveyron, 10 conseillers régionaux à élire. Hein. Alors, là aussi, ça oblige à se grouper et à se montrer solidaire entre partenaires, au lieu de devenir concurrent. Et effectivement, comme ça intervenait le même jour que les législatives qui elles aussi étaient à la proportionnelle intégrale par liste départementale, 3 députés à élire dans le département de l'Aveyron, il y a eu un accord entre les mouvements des radicaux de gauche, auxquels j'appartenais déjà, et le Parti Socialiste. Ça a été relativement facile. La tête de liste pour les législatives m'a été attribuée. Il y avait donc 3 sièges à pourvoir, plus 2 suppléants éventuels. Il fallait donc des listes de 5. Et puis, pour les régionales, c'est Gérard de Ruy qui a été tête de liste. Moi-même, j'étais en numéro 2. En 3, il y avait Bernard Ferrand, qui était le premier secrétaire du Parti Socialiste. Et en 4, il y avait Lacombe, Pierre Lacombe, du conseiller général de Nocelles, le maire de Camjac, qui, lui, à l'époque, n'était pas dans un parti politique. Il était considéré comme divers gauche, plus précisément comme gaulliste de gauche. C'est comme ça qu'on le qualifiait. Hein. Voilà. Et cette liste, nous avions fait... Moi, j'avais ma liste aux législatives avait fait 35-13%, ce qui me garantissait un siège, puisque, à condition d'avoir au moins 33, on était sûr d'avoir un siège. avec deux sièges à la droite, qui étaient occupés par Godefrain et Briane, c'est-à-dire que les trois sortants étaient reconduits sous cette forme. Et au régional, nous avions fait, je crois, 34-82, c'est-à-dire un score très, très voisin de celui des législatives. Et donc, ça a assuré l'élection de Gérard de Ruy, la mienne, celle de Bernard Ferrand et celle de Pierre Lacombe. Voilà comment ça s'était passé.
Donc, le fonctionnement du conseil régional avait dû être aussi modifié. Alors, il avait d'autres pouvoirs. Oui.
Jusque-là, le conseil régional était un établissement public régional où, comme pour les départements, le président du conseil régional assumait la présidence de l'Assemblée délibérante. Mais il n'avait pas l'exécutif qui était entre les mains du préfet de région. Là, regroupement de la partie législative avec la partie exécutive du rôle du président du conseil régional, qui, c'est ce qu'on appelait, on disait que le conseil régional devenait une collectivité territoriale de plein exercice. Voilà le terme qui était utilisé et qui est toujours en vigueur.
Oui, alors ce qui a changé aussi au niveau national, c'est que aux législatives, la majorité a changé.
La majorité a changé de peu. Elle a changé. Et il y a eu l'entrée d'un groupe du Front National qui comptait quand même au départ 34 élus. Alors, certains, notamment à droite, ont levé les bras au ciel du fait de l'entrée de ce contingent d'élus du Front National. Ça a beaucoup été reproché par la droite bonapartiste à François Mitterrand, qui a été accusé d'avoir fait exprès pour jeter le trouble. Mais en fait, moi j'estime qu'il vaut mieux que ces gens-là puissent s'exprimer dans les assemblées élues que de raconter n'importe quoi en dehors de, justement des instances officielles, ce qu'ils ont pris l'habitude de faire. On connaît bien les discours de Jean-Marie Le Pen ou de sa fille Marine qui est arrivée par la suite.
Oui, mais quand je dis que la majorité a changé, c'est le début d'une autre expérience qui a été la cohabitation.
Oui. Mais bon, moi ça ne m'a pas du tout choqué, puisqu'après tout c'est la démocratie. Et je ne vois pas pourquoi on se laisserait enfermer dans cette religion du fait majoritaire où avaient voulu nous installer les gaullistes et ensuite cette droite bonapartiste qui a pris la suite du gaullisme. Ils n'avaient que ce mot à la bouche, le fait majoritaire. Je crois que s'il y a des relations aussi difficiles en politique en France, c'est à cause de cela.
Vous pouvez préciser
C'est à cause de cette volonté majoritaire, si vous voulez.
Du bipartisme.
Du bipartisme. Les élus ne sont pas élus côte à côte, ils sont élus face à face, en position d'affrontement, avant même de s'être jamais rencontrés.
Oui, c'est pas le meilleur moyen de discuter. Comme
c'est le plus mauvais.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, autour, il y avait le silence, les guêpes et les nids des oiseaux, on allait à la pêche aux écrevisses avec avec les petites filles et les canards. HLM a fait place à l'usine et au supermarché. Les arbres ont disparu, mais ça sent l'hydrogène sulfuré. L'essence, la guerre, la société. Ce n'est pas si mal, et c'est normal, c'est le progrès.
La vision du progrès, selon Nino Ferrer, la maison près de la fontaine. Donc, comme question d'actualité, une actualité qui revient aussi sur le devant de la scène, à savoir la situation de la future, ex-future gendarmerie. Je crois que vous avez votre point de vue là-dessus.
Oui. Alors, c'est une question d'actualité. Mais je dirais à rebondissement successif, hein. Et en fait c'est une espèce de feuilleton, très très mauvais feuilleton qui pèse sur Villefranche maintenant depuis largement un an et demi, hein, depuis le mois d'août 2008 très exactement. Alors cette affaire me paraît constituer un énorme scandale, hein. Sur tous les plans, hein, sur le plan juridique, sur le plan administratif, sur le plan financier. Et il est certain que pour pouvoir se livrer aux acrobaties administratives ou juridiques auxquelles se sont livrés les porteurs de ce dossier, on peut dire que c'est aussi un scandale politique parce qu'ils n'ont pas pu manquer de recevoir des appuis politiques capables de les installer dans des dérogations anormales. Hein. Voilà mon point de vue sur ce sujet. Aussi, j'espère qu'un jour, on pourra tirer au clair toute cette affaire et en tirer toutes les conclusions et toutes les conséquences. Dans l'immédiat, moi, je plains beaucoup les chefs d'entreprise qui se sont laissés entraîner imprudemment dans ce dossier, tout simplement parce qu'ils avaient confiance dans un grand service de l'État, qui est la gendarmerie nationale, mais ils n'avaient pas mesuré les risques du fameux partenariat public-privé, hein, qui est le maître mot de ce dossier. Je plains également les acheteurs qui ont payé et qui n'ont rien en face, puisque c'était des particuliers qui devaient acheter les logements pour les relouer à la gendarmerie ou à des gendarmes. Je plains les salariés de ces entreprises, dont certains risquent d'y laisser leur emploi, si ce n'est déjà fait. Et j'espère vraiment qu'un jour, on pourra tirer tout ça au clair et cesser de vouloir camoufler ce dossier comme on le fait localement, dans les milieux officiels, on a l'impression que dès que quelqu'un en parle, il devient urgent de le remettre sous la pile. Hein. Voilà mon point de vue. Il y a longtemps que j'avais envie de dire ça, parce que en plus, cette vision de, pas de champ de ruines, mais de champ de friches d'industriels, est absolument, vraiment désolante.
Voilà, mais on vous a donné l'occasion d'en parler. Merci Jean Rigal, merci Roger Lajoie-Mazin. Donc cette émission se poursuivra la semaine prochaine. À bientôt.
Merci.